J'aimerais lire avec vous un texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, et à partir du verset 17. Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 17. À partir de ce moment, nous sommes là juste après la période de la tentation au désert, où Jésus a été dans le désert pour prier, pour jeûner pendant 40 jours. Et juste après cela, il nous a dit, à partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public en disant « Changez de vie, car le règne des cieux est proche ». Un jour qu'il se promenait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, qu'on appelle aussi Pierre, et André, son frère, qui lançait un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Poursuivant son chemin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient dans leur barque avec Zébédée, leur père, et ils réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent leur barque, quittèrent leur père et le suivirent. Jusque-là, la parole de Dieu. Dans une période de transition pastorale, il peut être utile de réfléchir à l'Église, à ce qu'elle est, pourquoi elle est là, ce que Dieu attend d'elle. J'ai un peu hésité au titre à donner à la prédication que je vous apporte ce matin, hésité entre « appeler à suivre Jésus » ou « appeler à changer le monde ». Finalement, les deux titres vont ensemble. Ils vont ensemble parce qu'avec les 12 disciples que Jésus va choisir, eh bien Jésus va changer réellement la face du monde. Les disciples qu'il forme vont former à leur tour d'autres disciples. La mission va se poursuivre. L'évangile qui libère va transformer des vies au cours des siècles, au fil des générations. Et ce que les disciples vont apprendre de Jésus pendant le temps qu'ils passent avec lui, ils vont ensuite le transmettre à d'autres. Ils ne vont pas transmettre qu'une connaissance intellectuelle de Jésus, mais ils vont transmettre la vie avec Jésus, le changement de caractère. Ils vont transmettre ce qu'ils ont appris au contact de leur maître. Ils vont faire d'autres disciples. Et 2000 ans après, la mission est appelée à se poursuivre. Et dans ce sens-là, un disciple n'est pas simplement une personne qui s'est convertie à Jésus-Christ. Un disciple, c'est une personne qui est connectée avec son maître. C'est une personne qui est en pleine communion avec Jésus. Et quand nous sommes appelés à former d'autres disciples, nous sommes appelés à mettre des gens autour de nous en communion, en pleine communion avec Jésus. Et si les disciples sont appelés à se multiplier, les disciples vivent en communauté. Et donc les communautés sont appelées à se multiplier. Les églises sont appelées à se multiplier. Or ici à Paris, ici dans le 18e, il y a encore beaucoup de place pour que de nouvelles communautés de disciples puissent s'implanter. Si l'on ne faisait que de suivre la recommandation du CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, qui estime, ils auraient pu donner un autre chiffre, mais qu'il faut une église pour 10 000 habitants afin qu'une personne ait au moins une fois une chance dans sa vie d'entendre le message de l'évangile en étant en contact avec un chrétien, bien rien que dans le 18e arrondissement, il y a de la place pour 20 églises. Et dans chacun de vos lieux de vie, il en va de même. Alors dans ma prédication de ce matin, j'aimerais voir avec vous comment Jésus a envisagé cette multiplication. Et j'aimerais développer trois points. D'abord voir comment Jésus a débuté son ministère. Ensuite, essayer de comprendre quelle était sa méthode, s'il en avait une, et puis ensuite voir comment il appelle à reproduire. Tout d'abord, les débuts du ministère de Jésus. Avant de se lancer, Jésus s'est préparé. Il s'est préparé notamment spirituellement, en faisant deux choses. La première, c'est qu'il a montré qu'il voulait être consacré à Dieu. Et pour cela, il s'est fait baptiser. Son baptême, c'était un signe de l'obéissance qu'il voulait avoir à l'égard de son Père. Il a fait une deuxième chose. Juste après son baptême, il a choisi de jeûner et de prier, de prendre 40 jours à l'écart pour être en contact avec le Père, pour se former spirituellement, pour apprendre à résister à la tentation. Et c'est au terme de cette formation spirituelle très intense que Jésus se lance dans le ministère. Mais il y a une autre préparation qu'on ne repère pas toujours d'emblée et que Jésus opère néanmoins avant de se lancer. Il y a une préparation plus matérielle. Jésus va déménager. Il va quitter Nazareth où il a grandi pour aller à Capernaum. Il va aller dans un territoire qui est beaucoup plus stratégique pour mener sa mission. Il choisit d'aller dans un territoire marqué par une présence païenne forte. Il choisit d'installer son QG, son quartier général, dans cette ville-là. C'est un choix tactique pour assurer une communication maximum de son message. Il ne va pas se réfugier dans un petit village lointain qui n'assurerait aucun écho, mais il va choisir le lieu duquel son message va pouvoir être entendu dans toute la Galilée, dans toute la Judée. Et je crois que ça fait aussi partie d'une préparation quand on veut annoncer l'Évangile avec une communauté, d'être dans les endroits stratégiques pour faire entendre le message et que celui-ci puisse se diffuser. Jésus s'est préparé spirituellement, matériellement, et le voilà prêt pour envisager maintenant son ministère. Et qu'annonce-t-il ? Parce qu'il commence par prêcher dans les synagogues, dans les lieux publics, il opère des guérisons qui authentifient son message. Mais que prêche-t-il ? Les Juifs attendaient un Messie. Ils attendaient quelqu'un qui apporterait un royaume de justice, un royaume de paix. Quand Matthieu résume, et c'est un résumé très condensé de la prédication de Jésus, mais quand il résume la prédication de Jésus, il la résume ainsi. Il dit que Jésus disait ceci, « Repentez-vous, changez radicalement, car le règne des cieux s'est approché. » En d'autres termes, quelque chose de nouveau se produit avec l'arrivée de Jésus. Les Juifs attendaient ce royaume. Jésus dit, le royaume est arrivé. J'amène ce royaume. J'amène le règne des cieux. Dieu régnait déjà dans le ciel. Mais Dieu a décidé d'amener son règne du ciel sur la terre. Et cela grâce à son Fils Jésus. Dieu a décidé, au travers de son Fils, d'exercer son gouvernement sur un peuple nouveau, un peuple qui accepte de vivre selon les valeurs du ciel et non selon les valeurs de ce monde ici-bas. Et quelle est la mission de Jésus ? C'est de mettre en œuvre ce plan, de former un peuple nouveau. Jésus se met à prêcher. Il prêche à des gens qui sont des religieux, des gens engagés dans une forme de foi. Mais il leur dit, le péché vous a coupé de Dieu. Le péché vous a amené à renier les valeurs du ciel dans votre façon de vivre. Vous vivez loin de Dieu. Vous n'avez pas fait sa volonté. Vous vous êtes enfoncé dans le mal. Laissez Dieu redevenir votre maître. Jésus disait encore, je suis là, c'est moi qui amène le règne de Dieu. Acceptez que je puisse gouverner votre vie. Changez de manière de vivre. Laissez Dieu vous transformer. Faites sa volonté. Et vous recevrez une vie nouvelle. Vous verrez un bout du ciel sur la terre. Jésus a appelé à la repentance. La repentance n'est pas un simple regret. Ce n'est pas seulement le fait de changer d'avis. La repentance implique plus, elle implique d'abandonner la rébellion qui est là au fond de nos vies. D'abandonner cette rébellion que nous avons parfois contre Dieu. La repentance, c'est une conversion radicale pour accepter que Dieu gouverne notre vie. Je ne vous connais pas encore, ou que très peu d'entre vous. Mais je me suis demandé si ce matin, tu peux dire, toi qui es là, à écouter la parole de Dieu, peux-tu dire que tu fais confiance à Dieu? Est-ce que tu es réconcilié avec lui? Est-ce que tu as pris la décision de suivre Jésus partout où il veut te mener? Partout. Cela coûte parfois. Mais si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à le faire aujourd'hui. Je t'invite, viens à Dieu, viens à Jésus tel que tu es, ou reviens à lui. C'est peut-être le temps ce matin. Si tu t'es éloigné, n'attends pas. Aujourd'hui, c'est un jour de salut. Tout simplement, demande à Dieu, là où tu es, dans la prière, qu'il revienne vers toi. Il est prêt, il te tend la main. Reviens vers lui. Et lui est prêt à marcher encore avec toi. En vous faisant cet appel, je ne fais que reproduire l'appel que Jésus adressait à ses contemporains. Jésus s'est donc mis à prêcher, à appeler les gens à changer de vie. Et il va faire une deuxième chose importante. Pour que son message puisse se pérenniser, pour que cette bonne nouvelle puisse continuer à œuvrer dans le temps, il va former une petite communauté de disciples. Je relis le texte de tout à l'heure, Matthieu 4, 18. « Un jour, qu'il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, qu'on appelle aussi Pierre, et André, son frère, qui lançaient un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Il y a quelque chose dans ce récit qui transpire la joie, qui transpire l'enthousiasme. On voit ses disciples, ses deux frères, et il en va de même des deux autres qu'il appelle juste après, on les voit prêts à quitter, au prix de lourds sacrifices sans doute, leur entreprise familiale, non pas à tout vendre, mais à confier le management de leur entreprise à d'autres pour avoir de la disponibilité et suivre Jésus pendant 3 ans. Il semble qu'ils le font joyeusement. Ils ne posent aucune condition, et ils le font aussitôt que l'appel retentit. Une chose m'étonne quand même dans ce texte, c'est cette spontanéité. Est-ce qu'on pourrait croire que Jésus les a rencontrés pour la première fois? Il est chargé de constituer une équipe et il prend les premiers venus, ceux qu'il rencontre sur sa route. Et eux répondent immédiatement oui. Est-ce que ça s'est réellement passé comme cela? En fait, vous pouvez faire ce travail biblique, je l'ai fait avant, en préparant cette prédication. Si on lit les 4 évangiles, on s'aperçoit que l'image est un peu différente. André et Jean qu'il appelle sont deux disciples qui étaient déjà disciples de Jean-Baptiste. Et grâce à la prédication de Jean-Baptiste, ils ont appris à reconnaître en Jésus le Messie. Quand ils entendent la prédication de Jésus, ils commencent à le suivre. Et ils disent à leurs frères, Pierre et Jacques, venez aussi suivre Jésus. Et donc ils sont habitués déjà à la prédication de Jésus. Ils le connaissent, Jésus les connaît. Autre chose encore, quand on lit attentivement les évangiles, on se rend compte que Pierre a habité plusieurs fois chez Pierre à Capernaum. Pierre avait une grande maison, c'était un pêcheur relativement aisé. Il abritait sa belle-mère, il abritait son frère chez lui, et plus sa famille. Il avait une chambre d'amis et Jésus y allait. Quand Jésus a déménagé de Nazareth à Capernaum, il a dû être hébergé à chaque fois chez Pierre. Nous n'avons aucune autre indication, et c'est vraiment ce que nous laisse entendre le texte. Si bien que le quartier général de Jésus pour la proclamation de sa mission se situe déjà chez Pierre. Et quand il se balade un jour au bord du lac, à les croiser en train de pêcher, il fait la pêche avec eux, on le lit dans un autre évangile, et là, rempli de l'Esprit de Dieu grâce à sa préparation spirituelle, rempli aussi de bon sens pratique, il appelle des gens qui sont déjà des amis, en tout cas des gens qu'il connaît bien, et il leur dit « Suivez-moi, entrez dans cette communauté de disciples que j'ai envie de former avec vous. » Et on voit chez Jésus un bon sens pratique. On s'aperçoit aussi que répondre à l'appel de Jésus n'est pas toujours aussi instantané qu'on le pense. Il y a un temps de préparation, un temps de mûrissement. On apprend à connaître Jésus, mais être prêt à le suivre, être prêt à être disciple, c'est quelque chose qui se produit au cours de la vie. C'est quelque chose qui va mûrir et quitter, comme eux l'ont fait, leur entreprise pour suivre Jésus n'est peut-être pas demandé à tous, mais ce que Jésus nous appelle, c'est à nous mettre à son service, que nous devenions tous disciples de Jésus. J'aborde mon deuxième point, et je vois que le temps passe vite. Quelle était la méthode de Jésus? Je l'ai dit, Jésus était bien préparé spirituellement. Jésus était bien préparé aussi matériellement en habitant un endroit stratégique. Et il fait deux choses qui vont compter réellement et que nous sommes appelés, je crois, à reproduire. Il prêche avec puissance l'Évangile. Il ne le prêche pas seulement par la parole, il le prêche en acte, en allant à la rencontre des gens qui étaient les pauvres, qui étaient ceux qui étaient dans le besoin, qui avaient besoin d'être délivrés. Et il appelle à se multiplier. Il appelle une communauté de disciples autour de lui. Voilà la méthode de Jésus pour que l'Évangile continue. Il y a l'idée de proclamer la parole, de la vivre en acte, mais aussi l'idée de multiplication. Si je vous prêchais ce matin et que cette parole ne produisait aucun effet et que vous n'annonciez jamais l'Évangile à d'autres et que vous n'ameniez jamais à des personnes dans votre entourage à connaître Jésus, au bout d'une génération, de deux générations, tout s'arrêterait. Il faut anticiper, voir loin, voir ce que Jésus veut faire. Et je crois que le peuple de Dieu est nombreux ici, à Paris, qui attend encore d'entendre la bonne nouvelle. Je passe du coup immédiatement à mon troisième point. Jésus nous appelle à reproduire. Il appelait des disciples au tout début de son ministère, et quand on retrouve Jésus à la fin de son ministère, juste avant qu'il quitte ce monde, il retrouve les mêmes disciples au même endroit. Lui n'est plus le même. Il est le ressuscité désormais. Il donne là les dernières paroles, son testament spirituel, ce qui compte pour la suite. Et que dit-il à ses disciples? Il leur dit, j'ai reçu les pleins pouvoirs dans le ciel et sur la terre. » Ce qui veut dire que Jésus règne. Il est au ciel. Il gouverne ce monde. Et grâce à cette certitude que nous avons que Jésus gouverne ce monde, il dit à ses disciples, « Allez dans le monde. Faites des disciples parmi les peuples. » Et les peuples sont nombreux ici à Paris. Différentes couches de population se côtoient. Différents peuples se côtoient ici à Paris. Allez parmi tous les peuples, baptisez-les, c'est-à-dire amenez-les à l'obéissance à Christ, enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et c'est là la nouveauté. Jusque-là, les disciples ont entendu, ont fait, ont suivi, mais maintenant, c'est à eux de faire, de reproduire le modèle que Jésus leur a enseigné. C'est à eux d'aller enseigner. C'est à eux d'aller faire des disciples, comme eux ont été faits disciples. Nous avons en France un tout nouveau président. Alors je sais que je n'ai pas le droit de parler de politique en jour d'élection, mais rassurez-vous, je ne prendrai pas position. Nous avons en France un tout nouveau président qui a su mettre un mouvement en marche. Il a su rassembler autour d'idées clés, autour de sa personne aussi, des gens qui venaient de tous bords. Et pour permettre au pays d'avancer, il a encouragé toutes les bonnes volontés venant de tous horizons à coopérer. J'ai suivi son discours d'investiture au Louvre et j'y ai vu une dimension évangélique quand il a dit « Je suis là pour servir humblement ». Mais j'ai aussi vu une dimension plus christique, l'homme providentiel qui est là pour sauver la nation. Or, le seul qui peut sauver la nation, c'est le Christ. En fait, ce qui s'est passé en France me rappelle à plusieurs égards ce que nous sommes appelés nous aussi à faire et à vivre. Nous, communauté, nous sommes aussi un mouvement. Et nous sommes aussi en marche. Et notre mouvement a même un nom, le REM, le Royaume en marche. Et nous avons à mettre toute notre énergie au service d'une cause, au service d'une personne. Cette personne, c'est le Christ. Nous avons à nous ranger à sa suite pour que son mouvement progresse. Et je peux vous garantir, nous avons un message porteur. Un message qui est une bonne nouvelle pour les Françaises et les Françaises. Parce que nous avons un peuple qui est désabusé. Un peuple qui est en mal de repère. Un peuple qui souffre. Un peuple qui est en colère. Et notre message, le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, est un message qui annonce un avenir meilleur. Si nous suivons le programme de notre chef Jésus-Christ, ce n'est pas un programme qui promet nécessairement un bonheur individuel, mais c'est un programme qui promet l'accomplissement. L'accomplissement d'une vie réussie. D'une vie où nous devenons réellement qui nous devons être aux yeux de notre Seigneur. Je suis conscient, et bien conscient, que l'Église du Tabernacle a une longue histoire. Et je suis personnellement très reconnaissant de toute cette histoire et de tout ce que Dieu a fait au travers de cette communauté, ici à Paris et dans le monde. Aujourd'hui, l'Église du Tabernacle est une église où se vit concrètement l'amour de Jésus, où se vit concrètement la puissance de la parole de Dieu qui agit. Et notre défi qui est le défi de chaque église, et pas seulement du tabernacle. C'est de poursuivre avec le même enthousiasme, la même foi que celle de nos prédécesseurs. Mais en empruntant des chemins nouveaux. Des chemins qui vont correspondre aux défis d'aujourd'hui, aux temps actuels, et qui vont nous permettre de cheminer en étant reconnaissants de ce que nous avons comme héritage. Le défi peut sembler de taille. Vous allez dire, moi je ne suis ni Pierre, ni Jacques, ni Jean. Mais l'Église de Jésus-Christ n'est pas composée de super-héros. Elle est composée de gens comme vous et moi, c'est-à-dire de gens ordinaires. Des gens qui ont des difficultés dans la vie de tous les jours, qui sont confrontés à des drames humains, qui passent par la souffrance, la maladie, le chômage. Mais c'est avec vous, avec nous, que Dieu veut transformer le monde. Avec des gens qui luttent dans leur vie de tous les jours pour rester fidèles à Jésus-Christ. Pourquoi avec nous? Parce que nous avons connu l'amour de Dieu. Parce que nous avons expérimenté la grâce merveilleuse de Jésus-Christ. Parce que nous sommes porteurs d'un espoir d'un possible changement avec Jésus. Et cela, nous pouvons le dire autour de nous, avec notre faiblesse, avec ce que nous sommes. Nous sommes appelés à être porteurs d'une espérance. J'aimerais encore prier avec vous. Seigneur, tu nous as appris à prier que ton règne vienne. Et nous voulons te laisser régner dans notre vie. Nous voulons accepter que tu gouvernes notre vie. Tu nous as appris à prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Tu as exprimé aussi cette volonté que nous fassions des disciples en étant nous-mêmes disciples. Fais-nous la grâce de te suivre, de t'aimer, de t'obéir. Fais-nous la grâce aussi d'être porteurs de l'espérance. Et ensemble, en tant que communauté, ensemble, de pouvoir faire des disciples, de former des gens à te suivre, à t'aimer et à faire eux-mêmes d'autres disciples. Aide-nous, Seigneur, à persévérer avec beaucoup d'amour, de fidélité, de persévérance. Aide-nous, Seigneur, à continuer d'annoncer ta parole et à la vivre avec ceux qui nous entourent. Renouvelle-nous dans notre vie de foi et dans notre amour pour toi. Amen.